Celui plongé dans de la gelée royale jusqu'à la métamorphose de la larve deviendra une grosse reine, tandis que celui plongé dans du simple miel deviendra une petite ouvrière. La reine vivra 4 ou 5 ans, l'ouvrière ne vivra que 3 ou 4 mois, elles ont pourtant exactement les mêmes gènes. Tous les insectes sociaux connaissent ce déterminisme qui a longtemps constitué une énigme pour les généticiens. Selon la nourriture que leur nourrice leur donne, selon aussi les phéromones que la reine libère dans leur direction, et selon la température ambiante, des larves identiques de fourmis donnent des coupeuses de feuilles, ou des récolteuses, ou bien des jardinières, ou des guerrières, ou des reines. Quant aux œufs de tortue, ils donnent un mâle ou une femelle, selon la température. Comment expliquer une telle élasticité dans l'apparition d'un même programme génétique? On l'ignorait. Les recherches ont finalement révélé que selon l'environnement de l'œuf, puis de la larve, à savoir sa nourriture, la composition de son atmosphère, la température ambiante, mais aussi le contexte qui le stresse ou le réconforte, ce ne sont pas les mêmes gènes qui s'activent. Sur les quelques 12 000 gènes que comprend le génome de l'abeille, environ 1200 ne réagissent pas de la même façon selon le contexte. Or, moduler différemment 10% des gènes, c'est déjà énorme. On a longtemps cru que les insectes sociaux constituaient une exception énigmatique. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Toutes les espèces vivantes fonctionnent ainsi. L'ADN ne scelle pas aveuglément notre destin génétique. Nouvelle sensationnelle et pleine de promesses, nous pouvons, en quelque sorte, manipuler nos gènes nous-mêmes. Et sur un spectre qui s'avère de plus en plus considérable au fil des recherches. Selon le professeur Rudolf Tanzi, enseignant à Harvard et directeur de l'unité de recherche sur la génétique du vieillissement du Massachusetts General Hospital, les variants génétiques qui nous attribuent une caractéristique inexorable, des yeux verts, peau blanche, des cheveux roux, le nez retroussé, sont ultra minoritaires chez l'être humain. Nous parlions de 10% chez l'abeille, chez nous ce ne serait pas moins de 95% de nos gènes dont l'expression dépendrait de notre environnement et de nos comportements, depuis ceux qui déterminent nos formes physiques jusqu'à ceux qui influencent nos états intérieurs à tout point de vue. D'abord, catégoriquement moqué et rejeté, comme il se doit quand surgit une nouveauté scandaleuse, l'épigénétique a gagné ces 10 dernières années une position ascendante sur tout le champ biologique. Une première fois, fin 2012, 400 scientifiques réunis dans le fameux programme mondial ENCODE ont rapporté les résultats de 8 ans de travaux montrant de quelle façon des sortes d'interrupteurs chimiques allumaient ou éteignaient nos gènes comme des ampoules électriques. Quand un interrupteur est sur « off », le gène ne fabrique plus les enzymes et protéines que son code lui assigne, il ne s'exprime plus. Une des principales découvertes de cette nouvelle approche est que 85% de l'ADN, que l'on appelait ADN poubelle, junk DNA, faute de comprendre à quoi servaient ces gènes apparemment sans fonction, jouait en réalité un rôle clé dans ces modulations de notre génome. Une étape cruciale a été franchie lorsque 4 pays, les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont accepté de financer le projet de l'épigénome humain, HEP en anglais, en vue de permettre notamment aux chercheurs de localiser ces interrupteurs on et off sur tous les gènes humains, ce qui a abouti, début 2015, à la publication de 24 documents décisifs, résultat de milliers d'expériences sur plus de 100 types de cellules, aussi bien embryonnaires qu'adultes. Le plus neuf, et comble du scandaleux pour la théorie orthodoxe, a été de découvrir que les modulations en question pouvaient non seulement persister dans la vie d'un individu, mais carrément se transmettre à sa descendance, ce qui constitue en soi un vrai changement de paradigme. Savez-vous si l'un ou l'autre de vos grands-pères mangeait beaucoup lorsqu'il était enfant? Peu de médecins vous posent la question pour sonder vos antécédents familiaux,